Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre élue régionale siégeant à la région Rhône-Alpes-Auvergne, élue aux dernières élections. Et suite à cela, vous avez fait un petit passage à la radio pour qu'on fasse un point sur cette élection et puis sur votre mandature à venir. Ce à quoi vous avez proposé aux auditrices, aux auditeurs d'RDWA de passer assez régulièrement, notamment après les sessions mensuelles qui se passent à la région où vous êtes donc en assemblée, censé être 204 élus. Hein,
C'est ça.
pour voter. La dernière était le 28 janvier. Donc on va se faire un petit récapitulatif de cette session avec ce qui est pour vous les points importants.
Oui, parce que je trouve ça important effectivement de pouvoir remettre un peu de lien entre les citoyens et les élus et ce qui se passe à la région qui paraît souvent lointain, un peu abstrait. On l'a vu encore aux dernières élections avec un taux d'abstention qui continue d'augmenter. Donc voilà, d'essayer de raconter un peu ce qui s'y passe, de le faire avec des mots normaux, un discours qui soit pas trop institutionnel et technocratique et de montrer voilà, que ça a des conséquences directes sur notre quotidien, même dans le Diois.
Vous étiez déjà élu régional avant.
Oui, et en 2010 j'ai été élu pour la première fois.
Voilà, et donc à cette période le vent était plus clément. Est-ce qu'il était important à ce moment-là de communiquer au même titre qu'aujourd'hui ? Ou pourquoi
oui.
Ça ne s'est pas fait ?
Bah, ça s'est fait par d'autres moyens, puisque depuis 2010, je raconte tout ce qui se passe à la région sur mon blog, dans des réunions publiques. Et puis, force est de constater que ça ne suffisait pas. Donc voilà, je me suis dit que RDWA pouvait être un vecteur supplémentaire de communication. Mais je le faisais déjà sous une autre forme. Il y avait sur mon blog à la fois des textes, des vidéos de mes interventions, des récits. J'ai fait des contre rendu de session en direct par ce biais-là, mais c'est vrai que bon, voilà, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet ou ne connaît pas forcément mon blog surtout, et donc RDWA, ça permet de toucher d'autres personnes et puis d'élargir aussi un petit peu l'audience et ce travail de pédagogie autour de ce qui se passe à la région.
Le blog, c'est Les Petits Poissons Rouges, c'est assez facile à retenir. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez Internet, à aller faire une petite visite. Ces comptes rendus de session régionales sont accessibles au grand public, en dehors du travail là, fait par un élu.
Alors oui, il y a des choses sur le site officiel de la région. On peut retrouver un certain nombre effectivement d'informations sur les délibérations qui sont votées. Mais c'est vrai que c'est un vocabulaire qui est quand même réservé un peu aux initiés. Moi-même, en tant qu'élu, j'ai parfois du mal à comprendre ce que veulent dire certains rapports, tellement le langage est ampoulé et très technocratique. Donc c'est vrai que du coup, il y a un travail quand même de décryptage à faire de la part des élus pour que ce soit accessible à tout le monde. Et puis surtout que ça ne décourage pas, parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont essayé une fois, deux fois d'aller sur le site de la région et puis qui finalement n'y retournent pas parce que ça reste très, très opaque, quoi.
Peut-être plus destiné à de la communication interne. Et est-ce que c'est bien le rôle des élus, là encore une fois théoriquement, de venir, élus régionaux, hein, de venir faire ce retour sur leur territoire pour que quand même la population sache ce qui est fait?
Bah, moi, ça me paraît important. C'est pour ça que j'essaye de le faire par plein de biais différents. Parce que, en réalité, sinon, on reste sur un schéma où tous les candidats en période électorale et les élus poussent des hauts cris en revoyant les taux d'abstention, le score élevé de progression du Front National, les discours de rejet qu'on entend beaucoup, hein, vis-à-vis des partis politiques et vis-à-vis de la classe politique et des élus, en mettant un peu tout le monde dans le même panier parfois. Et si on s'en tient à ça et qu'on ne fait pas un travail sur le terrain entre deux élections, on repoussera les mêmes cris d'orfraie à la prochaine élection et rien n'aura changé.
Nous allons donc parler de cette session mensuelle du 28 janvier dernier avec un choix d'un certain nombre de points. Évidemment, je le rappelle aux auditrices et auditeurs d'Ardioa à travers votre prisme politique.
Oui, bien sûr.
Voilà, et on peut le rappeler, vous êtes actuellement dans l'opposition de cette région Rhône-Alpes-Auvergne puisqu'elle est dirigée majoritairement par les Républicains, des alliances de droite et que vous êtes plutôt à gauche. Voire dans le parti de gauche.
Tout à fait.
Alors, on a choisi hors antenne déjà quelques points. Tout d'abord, cette question de la réunion par groupe politique, par classe politique. Pourquoi d'ailleurs ?
Alors, effectivement, on est encore en période un peu d'installation à la région, c'est-à-dire que les élections ont eu lieu en décembre. Oui. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre ou remettre en place. C'est le cas des commissions thématiques qui vont être installées cette semaine. Et puis, c'est le cas des groupes politiques, c'est-à-dire que sur les 204 élus, les élus ont la possibilité de se réunir par groupe, en fonction de leur sensibilité politique. Et voilà, en général, c'est sans surprise. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les listes qui étaient présentes au premier tour. Il y a eu là une inquiétude concernant le fait que Laurent Wauquiez souhaitait augmenter la taille minimum des groupes à 10 élus. Or, le PRG, le Parti Radical de Gauche, par exemple, n'ont que 5 élus. Le PCF en a 7. Nous, au Rassemblement, donc entre Europe Écologie Les Verts, le Parti de Gauche, Nouvelle Donne et d'autres, on en a 8. Et donc, il y avait une incertitude sur le fait de pouvoir constituer un groupe politique. Bon, finalement, ce seuil a été maintenu à 5 élus. Donc, il y aura bien 8 groupes politiques à la région qui correspondent à peu près aux listes de premier tour. Et ça, ça a une conséquence très concrète. C'est que quand vous avez un groupe, eh ben, vous avez les moyens qui vous permettent de fonctionner en groupe. C'est-à-dire que vous avez des locaux dans la région pour pouvoir vous réunir, tout simplement, que vous avez aussi une enveloppe pour salariés des attachés de groupe qui voilà, travaillent avec les élus sur les dossiers et toutes les affaires internes à la région.
Alors cette modification, si elle avait eu lieu comme le souhaitait Laurent Wauquiez, vous aurez obligé, notamment à gauche, là, puisque c'est le cas d'être peu de sièges, de vous rassembler et donc finalement de devoir sans cesse débattre entre vous et non pas travailler vraiment politiquement.
Tout à fait, c'est-à-dire que ça aurait obligé soit effectivement à des regroupements qui, s'ils ne se sont pas faits au premier tour, correspondaient à des vrais clivages politiques, soit à siéger comme non-inscrits. Ça arrive, hein. Il y a eu le cas au Front National d'exclusion lors du précédent mandat d'Alexandre Gabriac, par exemple, pour avoir fait des signes nazis et avoir été poursuivi par la justice. Il a été exclu du Front National, c'est dire. Et donc, il s'est retrouvé avec un autre élu non inscrit. Sauf que quand vous êtes non inscrit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un groupe politique, concrètement, vous avez très peu de moyens d'action et puis pas de travail collectif politique. Après, ça n'empêche pas que les différents groupes politiques peuvent très bien travailler ensemble, se concerter avant les sessions, essayer d'avoir des votes communs ou des propositions communes en termes d'amendements sur des rapports, par exemple. Donc, ça n'empêche pas le travail de concertation et de regroupement sur certains sujets, mais ça permet tout simplement aux électeurs qu'on voter au premier tour, de continuer à être présenté au sein de l'Assemblée sur le programme de premier tour.
Sur le programme de premier tour et donc de ne pas être fondu dans la belle alliance que vous avez fait d'ailleurs au deuxième tour. Mais bon, autre question par rapport à cela, est-ce que c'est une situation confortable pour Laurent Wauquiez et donc sa tête de liste aujourd'hui à la région? Est-ce que tous ces groupes sont correctement représentés et peuvent avoir vraiment la possibilité de contrer des décisions qui serait apporté par la majorité?
Alors aujourd'hui, concrètement, la majorité de Laurent Wauquiez, elle est divisée, puisqu'il y a un groupe, les Républicains, un groupe UDI, donc le centre, et puis encore un autre groupe centre et indépendant. Donc sa liste à lui de premier tour s'est scindée en 3, en réalité. Cela dit, soyons clairs, hein, le groupe des Républicains, ils sont 82 sur 204. Hein, le Front National, ils sont 34. L'UDI, ils sont 22. Centre et indépendant, ils sont 9. Donc concrètement, concrètement, la droite et l'extrême droite ont une majorité très confortable, et même la droite, même sans le Front National, a une majorité très confortable. Donc il n'y a pas réellement de pouvoir de blocage aujourd'hui de l'opposition sur les dossiers, pour être tout à fait honnête.
Et le Front National, c'est des amis de la politique de Wauquiez ?
Écoutez, sur un certain nombre de sujets, on peut imaginer effectivement qu'ils vont se retrouver, hein, à les entendre et puis à les voir aussi, puisque dans les travées, pendant les suspensions de séances, les relations sont extrêmement amicales, je peux vous le dire, entre les élus des Républicains et les élus du Front National.
Très bien.
Et puis bon, quand on entend les propositions de Laurent Wauquiez, qui annonce des portiques de sécurité à l'entrée des lycées, ou qui veut revenir à 42 voire 45 heures de travail hebdomadaire, on se dit que voilà, ils sont sur des politiques libérales, extrêmement libérales, qui se rejoignent en réalité effectivement entre les Républicains et le Front National sur un certain nombre de sujets.
Bon, donc ils ne feront pas office de trublion non plus. Voici pour ces réunions par groupe. Un autre point, Corinne Morel-Darleux, la question de l'indemnité des élus, puisque ça fait aussi partie des premiers chantiers dès qu'une nouvelle assemblée régionale se constitue.
Oui, alors ça c'est un point effectivement que je trouve intéressant aussi d'aborder, parce qu'on entend beaucoup de choses et on voit beaucoup de fausses informations circuler sur le salaire mirobolant des élus, avec pas mal de confusion notamment entre les parlementaires et les élus locaux, entre ceux qui cumulent et ceux qui ne cumulent pas. Et du coup, là il y a une proposition de Laurent Wauquiez qui fournit l'occasion d'en parler un peu, puisque lui a proposé de baisser les indemnités de tous les élus conseillers régionaux de 10%, ce qui permet, selon lui, de dégager presque 9 millions d'euros d'économies. Donc dit comme ça, on ne peut que être d'accord sur le principe de se dire, bah, finalement, il faut aussi que les élus fassent des efforts. Sauf que quand on gratte un peu la surface, on se rend compte que certains vont faire plus d'efforts que d'autres. Puisque dans l'exécutif, donc l'équipe qui entoure Laurent Wauquiez pour diriger la région, il y a à peu près un tiers de parlementaires, donc des élus qui cumulent leur mandat à la région et un autre mandat national ou européen comme Brice Hortefeux.
Ou un maire en plus.
Ou des maires de grandes villes. Et que ces gens-là, en réalité, sont déjà plafonnés. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouvez pas, en tant qu'élu, gagner dans votre cumul de mandat plus de 8 270 euros. Ce qui laisse déjà de quoi voir venir, hein, c'est par mois, ces 8 270 euros. Et donc, quand vous êtes député et que vous gagnez à peu près aux alentours de 5 500 euros par mois, et que vous êtes en plus vice-président à la région, donc aux alentours de 3 700 euros par mois, vous dépassez ces 8 270 euros de plafond. Et donc, au-delà, il se passe ce qu'on appelle un écrêtement, c'est-à-dire que ce qui dépasse va à la collectivité de votre choix, c'est-à-dire soit au Parlement, soit à la région. Ces gens-là, en fait, même en baissant leur indemnité de conseiller régional de 10%, continuent à être au-delà du plafond. Et donc, leur revenu, en réalité, reste de 8 270 euros par mois, sans parler des autres compensations et argent de poche complémentaires. Donc, en réalité, cette baisse des indemnités des élus, elle touche principalement ceux qui ne cumulent pas et qui, jusqu'ici, étaient aux alentours de 2000 euros bruts par mois, ce qui est un salaire correct, hein, mais qui n'est pas non plus, évidemment, sur les mêmes sommes que plus de 8000. Donc c'est une mesure extrêmement démagogique de la part de Laurent Wauquiez, qui lui permet de parler beaucoup d'exemplarité, sauf que l'exemplarité consisterait d'abord à arrêter de cumuler, à se consacrer à plein temps à la région, pour lui comme pour ses amis de l'exécutif.
Est-ce qu'il leur retirait donc cette enveloppe un peu cachée ? C'est étonnant que ce soit autorisé, ça, par la loi, de finalement ce plafonnement invite à limiter le cumul des mandats, déjà. Mais si on peut disposer de cet argent pour après arroser qui on veut, c'est...
Alors c'est pas tout à fait pour arroser qui on veut, c'est-à-dire que
c'est la collectivité de son choix, donc ils sont maires de leur ville, hop, ça fait une enveloppe supplémentaire pour la ville.
Oui, mais on n'a pas les dérives qu'on avait par exemple sur la réserve parlementaire avant. Moi j'en avais parlé au moment des législatives face à Monsieur Mariton, qui utilisait sa réserve parlementaire. Donc là pour le coup c'était vraiment une enveloppe qu'il pouvait utiliser à discrétion, en choisissant lui-même à qui ça allait bénéficier en termes de structure, entreprise, entreprises, associations, etc., et qui servait beaucoup sur la ville de Cray, effectivement, curieusement. Là, il n'y a pas, ce choix-là. C'est-à-dire que c'est remis au budget de la collectivité, mais le fléchage de là où va l'argent repasse par les votes de l'Assemblée.
Oui,
ouais, c'est au moins ça.
Au moins ça, bon. Voici donc pour les indemnités des élus. Alors donc, vous par exemple, Corinne Morel-Darleux, pardon, vous êtes à 2000, c'est ça?
Alors moi voilà, j'étais donc jusqu'ici aux environs de 2000 euros bruts par mois, sachant qu'il y a une partie de mon indemnité que je reverse à mon parti,
ouais.
Et qui sert à financer des actions militantes pour le parti de gauche. Donc voilà, ça m'amène à peu près à 1500 euros par mois.
Et là, c'est voté, ça y est, cette baisse d'indemnité.
Oui, cette baisse d'indemnité est votée, ça y est, ouais, tout à fait.
Bon. Donc alors, c'est quoi votre choix? De baisser la participation au parti ou...
Non, la participation au parti, elle est proportionnelle. Donc, de toute manière, ouais. Elle baissera en valeur absolue, mais elle restera à la même hauteur. Mais c'est vrai que une partie de mon indemnité que j'utilise pour en soutien à des projets, à des associations ou des choses comme ça, est un peu réduite de fait, quoi.
Toujours à propos de cette session mensuelle de la région Rhône-Alpes-Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes, hein, je crois que ça se dit.
Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant, oui, mais bon. A priori, il va y avoir un choix sur le nouveau nom et le nouveau logo, dont on ne sait pas encore exactement comment il va se passer, mais peut-être par une sorte de référendum ou en tout cas de questionnaire à la population.
Ah oui, carrément un vrai nom
voilà, là-dessus, on demande l'avis de la population, mais sur d'autres sujets, par contre, on attendra la prochaine élection.
Bah, parlons-en justement de ce point-là. Vous aviez proposé un amendement au droit d'initiative citoyenne. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà... préciser ce qu'est le droit d'initiative citoyenne.
Oui, tout à fait. Effectivement, donc, j'ai porté cet amendement au nom de mon groupe à la dernière session. Le droit d'initiative citoyenne, en fait, c'est un sujet sur lequel on avait déjà travaillé durant la précédente mandature, sur la période 2010-2011, et qui consistait à dire qu'on ne peut pas dire aux citoyens juste qu'ils ont le droit de s'exprimer une fois tous les 5 ou 6 ans au moment des élections et qu'entre les deux, on ne leur demande plus leur avis sur quoi que ce soit. L'idée, c'était de dire que 1% des citoyens de la région pouvaient se mettre ensemble pour demander d'inscrire à l'ordre du jour d'une de ces assemblées régionales un sujet qui leur tient à cœur, partant du principe qu'on peut avoir des nouveaux sujets qui émergent aussi pendant la mandature, et puis qu'en tout état de cause, introduire un peu de démocratie directe dans le système de la Ve République n'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc, sur 2010-2011, il y a un groupe de travail qui s'était réuni avec des représentants de l'ensemble des groupes, de toutes les sensibilités de la région, qui avaient bien travaillé et qui avaient abouti à un texte qui fixait un peu les modalités. Alors, c'était 1% des citoyens avec une répartition sur différents départements pour que ce soit un peu représentatif au niveau régional.
Soyons concrets, au niveau chiffre, ça ferait combien? 1% de la population régionale? C'est quand même... Beaucoup de gens. Enfin, ce serait par quoi? Par pétition? Par rassemblement vraiment concret? On se réunit tous là? Alors, j'imagine que ça
non.
fait au moins...
Non, l'idée c'est que évidemment si,
12 000 personnes,
si ce droit d'initiative citoyenne avait été mis en place, il aurait fallu y mettre aussi les outils. C'est-à-dire que concrètement... Effectivement, 1%. Alors là, en plus, sur Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai pas refait le calcul, mais ça représente effectivement quelques personnes. Bon, cela dit, Laurent Wauquiez, lui, pendant la campagne, il proposait 10%. Hein, donc, 1%, c'est déjà plus accessible. Mais l'idée, dans ces cas-là, c'est effectivement qu'il y ait une plateforme sur le site de la région qui permette aux gens de proposer des sujets et à d'autres de voter pour ces sujets et de s'y joindre, par exemple. Ce qui, là, pour le coup, par la voie électronique et par Internet et les réseaux sociaux me semblent déjà beaucoup plus atteignables. Donc il y avait des choses, bon après des choses assez techniques, mais vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis des vérifications de l'identité des gens, etc. Enfin bon bref, tout certains dispositifs avaient été travaillés donc au sein de ce groupe de travail, et tout ça avait donc donné lieu à un texte, une délibération qui avait été soumise au vote de la région en 2011. Et en 2011, ce texte avait été adopté majoritairement avec les voix du Parti Socialiste, les nôtres, celles d'Europe Écologie Les Verts, du PRG, etc. Malheureusement, ça a été retoqué par le préfet et par la cour administrative d'appel pour une raison, c'est qu'on y parlait de personnes majeures résidant en Rhône-Alpes, hein, qui pouvaient participer au référendum, parce qu'on souhaitait volontairement que ce soit tous les résidents et pas seulement ceux de nationalité française, oui, qui puissent participer à ce référendum. Ça a été retoqué et donc ça n'a pas pu se mettre en place. Et donc là, ce qu'on a souhaité faire, c'est redéposer ce texte sous forme d'amendement au règlement intérieur, en modifiant simplement déjà le fait que évidemment ça s'élargissait à l'ensemble de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, et surtout en modifiant du coup la partie retoquée et en parlant là de citoyens.
Donc des personnes qui ont leur carte.
Donc des personnes qui ont leurs droits civiques et donc la capacité de voter. Ce qui permettait de réunir a priori les mêmes votes qu'en 2011, et puis éventuellement même de recueillir les votes de la droite, puisque à l'époque, la droite avait voté contre ce texte uniquement sur cette question précise de parler de citoyens et non pas de personnes majeures. Et sauf que les choses ne se sont évidemment pas déroulées comme ça, puisqu'on a toujours un petit problème de cohérence dans le temps sur les votes des élus, que le Parti Socialiste, au lieu de voter pour, s'est abstenu. Et
cette
que,
année-là.
Oui, ouais, oui, là, ouais, jeudi dernier. Et puis que le leader du groupe des Républicains, M. Verschaert, qui s'est exprimé en réaction à cet amendement que j'avais défendu, nous a expliqué que le suffrage universel avait tranché au mois de décembre pour les 6 ans à venir, et que donc, en gros, il n'y avait pas besoin de demander leur avis aux citoyens entre les deux. Petite ouverture tout de même, Laurent Wauquiez a dit qu'il ne fermait pas la porte et qu'éventuellement, on reconstituerait un nouveau groupe de travail pour retravailler à la question. Donc, voilà, on reposera la question, mais enfin, toutes ces personnes qui n'ont eu de cesse pendant la campagne électorale que de parler de citoyens, d'implication citoyenne, de redonner le pouvoir au peuple et autres slogans électoraux, quand il y a là une occasion concrète de le faire et de le mettre en place, concrètement ne suivent pas.
Si on prenait un petit exemple local, hyper convenu, le village de Saillant qui a été mis sur le devant de la scène par tous les médias possibles, y compris à l'international, comment est-il perçu par les élus régionaux, justement, de bords politiques opposés aux vôtres, ou sur cette question-là de l'initiative citoyenne ?
Très honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'en parler beaucoup avec des élus, des Républicains, du Front National, voire même du Parti Socialiste. Moi, j'en ai jamais entendu parler à la région. Par exemple, je ne suis pas sûre que tous les élus régionaux aient seulement entendu parler de ce qui s'est passé à Saillant, parce que malgré tout, il faut déjà en réalité s'intéresser quand même un peu à ces questions de démocratie directe pour suivre ce qui s'y est passé. Après, ce que je peux imaginer, mais c'est uniquement de l'interprétation de ma part, c'est que la plupart des élus ne sont pas forcément ravis de voir ce genre de démarche se mettre en place, parce que concrètement, cette irruption de citoyens qui sont encartés dans aucun parti politique et qui s'auto-organisent pour reprendre un peu leur destin en main, je ne suis pas sûre que ça colle complètement avec la vision de la Ve République et de la démocratie représentative d'un certain nombre d'élus qui sont installés à leur poste. Nous, on était limite panés quand ils ont été élus la première fois. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est plutôt quelque chose qui aurait tendance à les déranger et à leur faire peur. Encore faudrait-il, pour que ça leur fasse peur, que ça s'étende et qu'il y ait un peu de contagion. Moi, c'est tout ce que j'espère. Pour l'instant, je ne suis pas encore complètement convaincue, malheureusement, que cette implication citoyenne s'étende en ce moment de manière très active. Voilà, moi, j'essaye d'aller filer un coup de main à différents endroits où il y a des choses comme ça qui commencent à frémir. C'est le cas un peu partout, de manière marginale, parcellaire.
Sur des petites communautés.
Ouais, la semaine dernière, par exemple, j'étais le lendemain, vendredi, dans le sud de la Drôme, à Réauville, où il y a un comité citoyen qui est en train de se mettre en place au niveau municipal, parce que concrètement, ils ont laissé passer une enquête d'utilité publique sur la déforestation de 10 hectares sur un terrain communal pour que Engie et Bouygues Énergie puissent installer un parc photovoltaïque. Et ils se sont dit qu'ils ne voulaient plus que ça arrive, de laisser passer des choses comme ça. Et donc, ils sont en train de se monter en comité citoyen. Voilà, il y a des initiatives comme ça, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste assez marginal, hein, par rapport au rouleau compresseur du système en place, quoi.
Alors moi, j'avais peur qu'on dise que les élus pensent que c'est quelque chose d'épiphénoménal, mais non, c'est pire encore, ils sont peut-être pas au courant. On poursuit sur les présentations de quelques points un peu importants à vos yeux, Corinne Morel-Darleux, sur les sessions mensuelles de la région, la dernière du 28 janvier dernier. Alors, il y a cette question du siège des élus régionaux dans des institutions locales. Prenons-en quelques-unes chez nous, le Parc naturel régional du Vercors, le CDDRA. Voilà, toutes ces institutions sont représentées par des élus régionaux. Et là, il y a une petite modification sur le vote, sur l'élection de ces élus représentants, qui modifie un peu la donne.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'effectivement, quand on est élu régional, on a un travail qui se fait sur des thématiques. Hein. C'est les commissions thématiques qui se réunissent à la région et qui, du coup, concernent l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, à titre d'exemple, je vais siéger dans trois commissions. La commission montagne, la commission agriculture et développement rural et la commission tourisme. Donc, voilà, il y a une certaine logique dans les thèmes et puis par rapport, évidemment, au DIWA et à la Drôme. Et puis après, il y a un deuxième type de travail de l'élu régional qui est plus local, qui est de représenter la région dans des structures locales. Donc c'est effectivement le Parc naturel régional du Vercors, le CDDRA du DIWA, le conseil d'administration du lycée de DI également. Et ces désignations-là, elles se votent au niveau de la région. Jusqu'ici, elle devait se voter en assemblée plénière, donc les 204 élus devaient voter, ce qui permettait là aussi de respecter un peu la proportion des résultats du coup des listes de premier tour. Et puis finalement, les premières désignations qui devaient se faire sur les parcs naturels régionaux et sur ce qu'on appelle les CDCI, c'est les commissions départementales de coopération intercommunale, c'était les premières désignations qui devaient intervenir à la dernière assemblée plénière. Et puis petit coup de Trafalgar, finalement elles n'ont pas eu lieu en assemblée plénière et elles devraient avoir lieu en commission permanente. Or la commission permanente, elle est beaucoup plus restreinte puisque c'est pas 200 élus mais une soixantaine, et que de fait la proportionnalité, elle est réduite par rapport à chaque groupe. C'est-à-dire que nous concrètement, notre groupe, on devrait avoir 2,6 élus, donc on en a 2 et non pas 3 puisqu'on a dit au chiffre inférieur. Et du coup, dans ces conditions-là, le siège, par exemple, qu'on aurait pu avoir au Parc naturel régional du Vercors où je souhaitais siéger, et si le vote a lieu en commission permanente, on ne l'aura pas. Pareil pour le conseil d'administration du lycée. Normalement, il y a 2 titulaires maintenant, 2 élus régionaux qui peuvent y siéger. Pour l'instant, je ne sais toujours pas si je pourrais donc continuer à siéger à ce conseil d'administration du lycée, ce qui pose évidemment un problème de représentation, de diversité politique et puis aussi de suivi dans les dossiers.
Et puis là, concrètement, les élus, on va dire qu'ils sont du bord politique majoritaire à la région, ne sont pas ici localement. Enfin, il n'y en a pas, par exemple, sur DI. Ça veut dire que c'est des gens qui vont être parachutés pour le lycée de DI.
Pour l'instant, effectivement,
ça pourrait
être le cas, et ça pourrait surtout être du coup la difficulté d'avoir quelqu'un qui va de fait au conseil d'administration du lycée, quoi. C'est-à-dire que on a beaucoup de représentations comme ça qui sont pas assurées parce que les élus régionaux du coup de la majorité mais très honnêtement, c'était le cas dans la majorité précédente aussi, hein, se retrouvent avec énormément de désignations dans plein d'organismes, alors locaux certes, mais avec des temps de trajet qui sont parfois assez longs, et du coup, peuvent pas assurer toutes les présences.
Donc ils ne siègent carrément pas, quoi.
Bah, donc c'est un risque, effectivement, ouais. Et qui, en plus, là, pour le coup, est au-delà des clivages partisans, puisque sur un conseil d'administration de lycée, par exemple, on est surtout sur des questions techniques liées à des questions de bâtiment, d'équipement, de dotation, et pas franchement sur des questions politiques, puisqu'on n'intervient pas, nous, évidemment, sur les questions d'éducation qui relèvent de l'éducation nationale. Donc voilà, c'est vrai que c'est une pratique, pour être tout à fait honnête, qui était le cas aussi dans le mandat précédent, cette manière de préempter un peu les sièges pour que l'opposition ne les ait pas, qui pose quand même un certain nombre de soucis sur des territoires plus ruraux. Et là, c'est vrai que le changement de mode de désignation de l'Assemblée plénière à la Commission permanente vient encore rajouter une difficulté en termes de représentation tout simplement des différents groupes politiques.
Tiens donc, encore la ruralité un peu mise à mal. Donc là, est-ce que c'est quand même complètement acté, le fait que ça va se faire uniquement en petite commission, ou bon, c'est une alerte ?
Bah, très honnêtement, oui, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus, si ce n'est qu'on devait voter à la dernière plénière et que finalement, on n'a pas voté. Et les bruits de couloir qui nous sont revenus sont ceux-là, mais on n'a pas eu de notification officielle du changement mode de désignation. Donc pour l'instant, on est un peu suspendu à notre K-box du petit nom de notre nouveau logiciel qui nous permet de recevoir les informations officielles de la région.
C'est beau, le K-Box. Ben voilà, et donc on a alerté nos citoyennes et citoyens, auditrices et auditeurs de RDIWA, mais bon, vous n'aurez pas la possibilité d'aller contre, puisque c'est décidé pour 6 ans. On va terminer par un dernier point, Corinne Morel-Darleux, la question d'un étonnant vote d'urgence pour une somme assez énorme en direction d'une entreprise qui n'en a peut-être pas besoin. Un fait, j'allais dire, très commun à nos dirigeants de droite, quand même. Voire peut-être un peu des fois de gauche, dont on ne sait plus trop où elle est.
Oui, parce que pour le coup, je me suis suffisamment battue et exprimée lors du mandat précédent pour ne pas absoudre effectivement le Parti Socialiste d'avoir fait la même chose. On a notamment beaucoup insisté lors du mandat précédent et puis ensuite encore pendant la campagne électorale et à nouveau la semaine dernière sur un cas d'école qui est ST Microelectronics à Grenoble, qui a bénéficié d'aides indirectes de 25 millions d'euros de la région, alors que il appartient à un groupe qui fait des profits, qui verse des dividendes à ses actionnaires et qui pour autant provoque des licenciements. Malheureusement, on a beaucoup crié dans le désert. On avait refusé, les élus Parti de gauche ensemble et Europe Écologie Les Verts, de voter cette subvention de 25 millions sans aucune contrepartie et sans aucune garantie d'emploi.
Et dans quel intérêt d'ailleurs elle se fait cette... Pourquoi ce choix ?
Eh ben, généralement, ces votes se font au nom de la compétitivité, d'une stratégie industrielle, du fait de garder des filières de pointe sur le territoire de la région et de conserver justement des emplois. Sauf que là, et malheureusement, il y a des fois où on préférait se tromper, mais les faits nous ont hélas donné raison, puisque ST Microelectronics vient à nouveau d'annoncer un nouveau plan de licenciement la semaine dernière, avec 430 suppressions de postes sur ST Microelectronics dans l'Isère, près de Grenoble. Avec les redéploiements d'effectifs, c'est à peu près 600 postes qui vont être supprimés, alors que à peine 2 ans plus tôt, on venait de voter 25 millions d'aides publiques au niveau de la région à cette entreprise. Et donc là, malheureusement, on est en train de refaire exactement la même chose, puisque effectivement, jeudi dernier, a été soumis, alors avec un caractère d'urgence, c'est-à-dire que concrètement, on a eu le rapport seulement la veille de la session, donc avec très peu de temps pour prendre connaissance des informations liées à l'entreprise, etc., d'un rapport proposant de donner 1 200 000 euros d'argent public à une entreprise auvergnate qui s'appelle Aubert et Duval, qui appartient à un groupe qui a versé là aussi 1,6 milliard de dividendes à ses actionnaires entre 2008 et 2013, tout en supprimant 200 emplois sur la période 2014-2015, et à qui là on donne donc 1,2 million d'euros sans aucune garantie de création d'emplois, une fois de plus. Donc voilà, le rapport parle vaguement d'une hypothèse de création d'une quinzaine d'emplois. Alors 1,2 million pour créer 15 emplois, outre que c'est pas très efficace d'un point de vue économique, mais il n'y a aucune garantie, il n'y a pas de clause par exemple de remboursement en cas de licenciement, c'est pas une avance, c'est concrètement un don, exactement comme le fait le gouvernement avec les crédits d'impôt, sans aucune contrepartie, ni sociale, ni environnementale d'ailleurs. Donc voilà, c'est typiquement le genre de vision du développement économique qu'on réfute nous totalement, parce que cet argent public, il va à un endroit où il n'y en a pas besoin, dans un secteur privé qui réalise des profits et qui est très heureux de fonctionner sur la loi du marché, alors qu'à côté de ça, il y a des associations, il y a des PME, il y a des artisans, il y a des petites structures qui sont en train de mourir la bouche ouverte, faute de montants bien inférieurs à ça, voire parfois simplement d'avance de trésorerie qui leur permettrait non seulement de continuer leur activité, mais même d'embaucher. Je pense notamment à l'artisanat dans le bâtiment, par exemple. Moi, j'ai pas mal travaillé avec ce secteur-là. Il y a plein de réserves, de besoins d'emploi en termes de rénovation thermique d'un certain nombre de logements, par exemple. Et la raison pour laquelle ces travaux ne sont pas réalisés et pour lesquels il n'y a pas d'embauche dans ce secteur, c'est juste des problèmes de trésorerie. Mmh. C'est-à-dire même pas de subvention, mais d'avance de trésorerie. Avec 1,2 million d'euros, on pourrait créer un fonds de roulement qui permettrait à ces entreprises de ne plus dépendre du secteur privé bancaire qui, de toute manière, ne leur accorde plus de prêts, et de se débrouiller toutes seules pour continuer leur activité qui est bonne pour l'emploi, qui est bonne pour l'environnement et qui est bonne pour le territoire. Donc voilà, malheureusement, il semble que la droite n'ait pas tiré les leçons du mandat PS précédent et continue les mêmes erreurs.
Ou fait la même chose, tout simplement. Et puis, je me posais une question de calcul mental, là, comme ça. 1,2 million à une entreprise qui, elle-même, licencie 200 personnes, finalement, en prestations sociales, personnes au chômage. Je suis pas sûr que ça soit un bon rapport, quoi. À mon avis, ça coûte plus cher de les mettre au chômage.
Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi c'est d'autant plus surprenant d'entendre de manière tout à fait concomitante, parce que c'était, je crois, deux jours avant ce vote, Laurent Wauquiez s'exprimait sur les médias nationaux pour expliquer que la solution au chômage, c'est de revenir aux 42, voire 45 heures hebdomadaires. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre comment des personnalités politiques de premier plan dans notre pays peuvent encore imaginer que c'est en faisant travailler plus ceux qui travaillent déjà qu'on va créer de l'emploi pour ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui. Ça paraît du bon sens que de dire qu'on va aller donner de l'argent là où il y en a besoin, là où il y a des leviers pour l'emploi, d'une part, et que d'autre part, mieux répartir l'activité, c'est justement au contraire baisser la durée du temps de travail pour que tout le monde puisse travailler et travailler mieux et dans de meilleures conditions.
Bon, mais Laurent Wauquiez n'est peut-être pas bon en mathématiques. Je voulais revenir aussi sur le caractère d'urgence. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique et qui est normal de présenter à des élus la veille un rapport et puis de dire il faut le voter, c'est urgent, on n'en peut plus?
C'est là, en l'occurrence, un peu surprenant, d'autant que c'est un dossier qui, visiblement, traînait dans les tiroirs de la région Auvergne depuis 2014. Alors, M. Wauquiez nous a expliqué que c'était justement pour ça qu'il était devenu urgent. Pour autant, le présenter, effectivement, sous couvert d'urgence, sans qu'on ait le temps de le travailler, à cette deuxième session, qui est encore une session d'installation, c'est un peu surprenant. C'est une des prérogatives du président de région, donc
il peut le faire.
Après, peut-être est-ce que cela a trait aussi à la vente par la France d'un certain nombre de Rafales à l'étranger qui est intervenu récemment, puisque cette entreprise Aubert et Duval travaille pour l'exportation des Rafales.
Ah, on a compris. Corinne Morel-Darleux, on arrive au bout des points qu'on avait prévu d'évoquer dans cette émission. Petit truc annexe, allez.
Oui, parce que pendant que il se passe toutes ces joyeusetés dans les couloirs de la région et d'un point de vue institutionnel, il se passe aussi des choses sur le terrain, des mobilisations et des mobilisations citoyennes notamment. Et je voudrais juste profiter de l'antenne pour rappeler un rassemblement qui va être absolument déterminant, qui va avoir lieu le 28 février à Barjac, dans le Gard, et qui concerne la réattribution du permis d'exploration de gaz de schiste, dit permis de Montélimar, qui vient d'être réattribué par le tribunal administratif à Total, et qui relance donc la possibilité d'extraire du gaz de schiste sur notre territoire. Ça concerne plusieurs départements, dont celui de la Drôme. C'est une bataille qui a été très importante, là aussi, aux alentours de 2011,
ouais, bah oui.
Avec la victoire, une première victoire d'obtention d'une loi qui interdit la fracturation hydraulique. Aujourd'hui, Total revient par la porte juridique récupérer son permis, alors que la seule technique qui existe aujourd'hui pour extraire des gaz de schiste, c'est la fracturation hydraulique. Et donc, il y a un appel qui est lancé par tous les collectifs anti-gaz de schiste pour la transition énergétique, les collectifs qui sont mobilisés aussi sur d'autres projets type Notre-Dame-des-Landes, des citoyens, des élus, pour une grande manifestation le 28 février à Barjac dans le Gard, pour redire notre opposition à cette exploitation qui est nocive pour l'environnement, qui demande de grandes ressources en eau et qui en plus vise à extraire des gaz de schiste qui, une fois brûlés, sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre et aggravent encore davantage le dérèglement climatique. C'est donc ni fait ni à faire et il faut qu'on soit vraiment très nombreux le 28 février à Barjac dans le Gard.
Merci Corinne Morel-Darleux. Donc prochaine rencontre avec les auditrices et les auditeurs, ce sera après la prochaine session. Donc c'est à peu près, je disais mensuel, mais tous les mois et demi. Donc la prochaine, c'est quand ?
Alors la prochaine session, ce sera le jeudi 17 mars et on parlera orientation budgétaire. Ce sera donc les grandes lignes en matière de budget régional. Ça va donc être important pour voir qu'est-ce qui va être raboté et qu'est-ce qui va être développé en matière d'attribution de l'argent public. Et on vient de voir à quel point c'était important de vérifier et de surveiller très attentivement cette utilisation de l'argent public.
Donc rendez-vous en mars pour la radio, rendez-vous le 28 février à Barjac pour manifester contre le gaz de schiste. Et puis bonne suite dans votre mandat.
Merci beaucoup.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Du jour.